21h. Nous allons débuter notre réunion. Nous allons demander au pasteur José du Canada de nous conduire et en demandant le Saint-Esprit pour qu'il canalise tout ce que nous allons nous dire entre nous ce soir. Prions avec le pasteur José du Canada.
Notre Dieu, c'est vrai, c'est notre désir que toute la session, Seigneur, soit conduite et dirigée par ton esprit. Que son impulsion, sa direction, Seigneur, soit donnée à notre frère Gaston, Père très saint, pour canaliser toutes les pensées, toutes les idées, Seigneur, qui vont être partagées. Et mieux, Seigneur, les présenter de façon que chacun en retire quelque chose. Nous te demandons, Seigneur, de le faire. Nous te demandons, notre Dieu, de disposer aussi nos cœurs. Nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux. Nous voulons être de ceux et celles qui lisent la parole et qui la mettent en pratique. Aide-nous, Seigneur. Nous confessons que si tu n'es pas avec nous, Seigneur, nous ne saurons pas mieux faire, Seigneur, ce que tu attends de nous ce soir. C'est vrai que sans toi, c'est clair, nous ne pouvons rien faire. Et c'est pour cela que notre frère a besoin de toi. Chacun de nous a besoin, Seigneur, de ton aide, de ton soutien. Merci pour ce que tu nous donneras encore ce soir. Nous nous attendons à être enseignés, à être corrigés, à être repris. Nous nous attendons, Seigneur, à être instruits de toi. Béni sois-tu, toi qui vas faire, qui vas accomplir toutes ces choses pour chacun de nous. Au nom de Jésus, nous te prions, notre Dieu. Amen.
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 Merci, pasteur, pour la prière. Nous allons demander à Maman Christine de nous lire le passage du jour qui est dans Marc chapitre 6, versets 45 à 56. Et ce passage vient avec une question, la question 7. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Nous lisons le passage avec Maman Christine. Maman Christine?
Je m'excuse, j'étais en mute là. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et les précéder sur l'autre rive vers Bethesda.
Bethsaïda,
merci beaucoup. Pendant que lui-même renverrait la foule, quand il eut pris congé d'elle, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'il avait beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire à la quatrième veille de la nuit environ. Il alla vers eux en marchant sur la mer et ils voulaient les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils pensèrent que c'était un fantôme et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous. Et ils furent troublés. Aussitôt Jésus leur parla et leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta auprès d'eux dans la barque et le vent tomba. En eux-mêmes, ils étaient tous stupéfaits, car ils n'avaient pas compris les miracles des pains, parce que leur cœur était endurci. Après avoir achevé leur traversée, ils arrivèrent dans le pays de Génézareth et ils abordèrent. Quand ils furent sortis de la barque, les gens reconnurent aussitôt Jésus, parcoururent toute la région et se mirent à apporter des malades sur des grabats, partout où l'on apprenait qu'il était, partout où il entrait, village, ville ou campagne, on mettait des malades sur les places publiques et on les suppliait afin de toucher seulement la frange de son vêtement. Et tous ceux qui les touchaient étaient délivrés. La Amen. Parole du Seigneur.
Amen.
Amen. Merci beaucoup, Maman Christine, pour la lecture. Bien-aimés, une fois de plus, dans ce passage, le Seigneur Jésus-Christ prouve à suffisance qu'il est et qu'il reste l'unique créateur de tout, visible et invisible. Tout doit lui obéir. Même si certaines personnes, comme je le lisais dans une revue, cet océanographe, le professeur Knopf de l'Université de Miami, qui voulait dire que Jésus-Christ n'a jamais marché sur les eaux, mais c'était sur la glace, car selon lui, à cette époque-là, les lacs étaient gelés. Assertion fausse du reste, mais dans tout ceci, nous voyons la divinité de celui qui nous aime et a donné sa propre vie pour nous. Aucune personne ou soi-disant Dieu, Bouddha, Simon Kimbangu, Mahomet, ni un puissant de ce monde n'ait osé marcher sur les eaux. Notre Seigneur Jésus-Christ est unique. Le vent, la mer, la mort, la vie, tout lui est soumis. Jésus-Christ, qui marche dans la sainteté, se retire dans un lieu isolé sur la montagne pour prier, parler tête à tête avec son Père, presque toute la nuit. Et quand il rejoint ses disciples, il leur dit, « N'ayez pas peur. » Et ce soir, malgré le vent qui est contraire, qui souffle dans notre vie, dans notre église, dans notre maison, le Seigneur nous rassure qu'il est là. C'est moi, n'ayez pas peur, dit le Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. C'est un message qu'il transmet à tout un chacun de nous, une fois de plus, ce soir. Bien-aimés, nous l'avons prié pour que le Saint-Esprit nous conduise. Nous nous recommandons entre ses mains. Nous avons médité ce passage et nous voulons mettre en commun les richesses contenues dans ce passage afin que nous puissions nous édifier mutuellement. Nous pourrons aller du verset 45 jusqu'au verset 52 et de 53 à 56. Nous avons 2 minutes pour le faire. Et si le Saint-Esprit dépose encore quelque chose en nous, nous pouvons toujours demander la parole et nous sera accordée selon le temps qui nous est imparti. Et je donne alors la parole à l'Assemblée pour que nous puissions nous édifier mutuellement. Je ne sais pas, Pasteur José des États-Unis, êtes-vous là? Ok. Non. Je pense que le pasteur José des États-Unis n'est pas là. Merci. Qui voudrait briser, être le premier à briser la glace? Pasteur José du Canada, vous avez la parole.
Oui. Je m'appuie sur le verset 45, mais en voyant un peu ce qui s'est passé plus tôt, que le verset 45 parle du Seigneur qui dit, qui oblige ses disciples à monter dans la barque pour le précéder de l'autre côté vers Bethsaïda, qui est la ville natale de Pierre et André. Je vois le groupe de 12 ici. Précédemment, dans ce que nous avons vu hier et avant-hier, c'est un groupe que Jésus avait envoyé deux à deux pour partager le message de la bonne nouvelle du salut. Et quand ils sont revenus, le Seigneur a reçu leur rapport, mais aussitôt le Seigneur avait vu que ils étaient fatigués. Et il a proposé qu'ils se mettent à l'écart pour se reposer, se ressourcer un peu. Mais ils n'ont pas pu le faire parce qu'aussitôt qu'ils sont arrivés dans les lieux où Jésus les a menés, il y avait une grande foule et Jésus a eu compassion de la foule pour demander qu'on la nourrisse et le miracle pour les 4 000 personnes a eu lieu. J'imagine que les disciples ont dû manger aussi en même temps avec la foule, mais il demeurait que physiquement c'était des hommes fatigués. Et ici, le travail continue. Ce que cela me dit, ce que je trouve personnellement, ayant quelques occupations dans plusieurs places, je sens comme le corps ne suit plus, en tout cas. Des fois, quand on n'a plus 20 ans, et qu'on est toujours impliqué dans des activités à gauche, à droite, on est fatigué. Et je suis encouragé de voir que la fatigue physique, il faut bien savoir se reposer, mais en même temps, il ne faut pas oublier que malgré elle, l'œuvre du Seigneur doit toujours continuer et le Seigneur nous veut toujours actifs dans son œuvre. Voilà ce que je retire du verset 45.
Merci beaucoup, Pasteur José du Canada. Nous devons savoir nous reposer. Le Seigneur n'est pas contre cela. Malgré cela, nous devons aussi demeurer actifs dans l'œuvre du Seigneur. Et toujours dans ce verset 45, vers la fin, pendant que lui-même renverrait la foule. Quelle humilité de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Lorsque les grands de ce monde organisent des grandes assemblées, et dès que le programme touche à sa fin, il part. Ce sont les autres qui restent pour arranger et pour maintenir l'ordre. Mais ici, le Seigneur, voyant la fatigue de ses disciples, il leur permet de partir et lui-même s'en charge de renvoyer la foule. C'est qu'il y avait des gens qui avaient des questions et d'autres qui voulaient rester avec lui. Il devait faire face à tout cela, les ramener dans le calme, dans l'amour. Et après avoir terminé, il devait s'occuper d'autres choses. C'est quelque chose qui m'a beaucoup interpellé. Nous accordons la parole au pasteur Célestin ou à Maman Christine.
Oui, merci beaucoup, Père Gaston, pour la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis, disons, au verset 46. Quand nous voyons la fin, donc, du verset 45, nous voyons Jésus qui a renvoyé la foule, un bon exemple à suivre. Et comme le disait notre bien-aimé, mais il ne s'est pas arrêté là-bas. Il est parti, il s'en alla sur la montagne pour prier. Quel bon exemple, un très bon exemple à suivre. Il n'a pas renvoyé pour renvoyer, mais lui a voulu aller se ressourcer auprès du Père pour dire que si lui, Dieu, avait besoin de se ressourcer, à plus forte raison, nous qui sommes dans l'œuvre. Donc, que le Seigneur nous donne la disponibilité de toujours penser à aller se ressourcer auprès du Père. Amen.
Amen. Oui, merci beaucoup, Maman Christine. Nous devons savoir nous ressourcer et parfois quitter nos conforts, parfois quitter nos lieux habituels pour aller dans un autre endroit où on est un peu coupé des réalités de la vie courante pour être face à face avec notre papa. Et c'est des moments très enrichissants. Merci beaucoup, Maman Christine. Nous accordons la parole à notre bien-aimé frère Thomas.
Oui, c'est au verset 45. Je vois un sens d'organisation dans le Seigneur parce que il reste pour renvoyer la foule. C'est 5000 personnes, 5000 hommes, sans compter femmes et enfants qui venaient de manger. Donc, c'est une foule de plus de pratiquement 10 000 personnes. Et ils ne quittent pas avec les disciples, oui, les laissent rentrer eux-mêmes. Le Seigneur prend le temps de renvoyer la foule. Et il sait que ses disciples sont fatigués, donc il les laisse partir. Lui reste pour s'assurer que les gens connaissent la direction de rentrer. Parce qu'ici, il est dans un lieu pratiquement difficile pour les gens. Et c'est dans un lieu désert, d'après le verset 30, 31. Donc, il s'assure que les gens peuvent rentrer, sont capables d'aller où ils doivent aller. Je suis impressionné par l'absence de préoccupation du Seigneur, même dans le besoin le plus élevé, que les gens qui sont venus recevoir des miracles, recevoir la nourriture, ils ont mangé, ils ont écouté la parole de Dieu. Mais il ne se dit pas, ah, ils doivent se débrouiller ne fût-ce que pour rentrer. Il prend le temps qu'il puisse savoir comment rentrer chez eux. S'il y a quelqu'un qui a un autre besoin ou quoi, tout ça, il s'assure que tout est en ordre avant de quitter l'endroit. Donc, je trouve ça un exemple à suivre, mais c'est formidable que le Seigneur se préoccupe des besoins de son peuple jusqu'aux besoins les plus élémentaires. Merci.
Merci beaucoup, bien-aimé. C'est pour cela qu'il est l'alpha et l'oméga. Il s'occupe de tous nos besoins. Et même dans les moindres détails, il est merveilleux, notre Dieu. Merci beaucoup, bien-aimé Thomas. Nous accordons la parole au pasteur José du Canada. Pasteur, vous avez la parole.
Merci encore, frère. Au verset 48, dans ma version, lui, second 1910, il est dit que, et on commence avec le verbe voir, on dit il vit. En fait, c'était les disciples qui le précédaient, ils sont déjà sur la mer. On parle de la mer au verset 47, ils étaient au milieu de la mer. La nuit est tombée, hein, c'est ce qui est dit au début du verset 47, le soir étant venu, donc la barque était au milieu de la mer. Ça veut dire qu'il faisait sombre, faisait nuit, et on sait qu'à l'époque, l'électricité n'était pas là. Et au verset 48, on dit, Jésus vit. Donc, il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer. Donc, on dirait ici, frères et sœurs, donc lui est sur le rivage, du côté opposé à la direction prise par la barque qui contenait les disciples. Et la mer, je n'ai pas cherché quelles étaient les dimensions de cette mer-là. Mais ce qui est vrai, c'est que la distance à laquelle étaient les disciples, compte tenu de la noirceur qui tombait déjà, parce qu'à la quatrième veille, c'est à peu près à 3h du matin, le Seigneur était capable de voir les disciples au milieu de la mer. Ça me rassure et ça m'édifie beaucoup de savoir que non seulement il a pris soin de la foule, comme on vient de l'entendre, mais aussi il voit la situation, le contexte dans lequel vivent les disciples, et le Seigneur vient aussi à leur secours. Autant il a secouru la foule, autant il vient aussi secourir ses disciples, et ça me rassure que quel que soit le temps, le jour, la nuit, le Seigneur voit. Le Seigneur me voit je dois prendre courage et lui faire confiance que c'est lui qui m'a créé, c'est lui qui m'a donné la mission. Il ne m'a pas abandonné, il est là, il voit et il vient à mon secours. Voilà.
Merci beaucoup, Pasteur José du Canada. Vraiment, c'est merveilleux. Rien ne peut surprendre notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'a pas supposé que, comme il y a du vent, non, il a vu les disciples. Il a vu que les vents leur étaient contraires. Ni les ténèbres, ni la distance, ni les obstacles ne peuvent empêcher notre Seigneur de nous localiser, de nous voir. Pas de voir seulement physiquement, mais aussi de lire ce qui se passe au-dedans de nous. Nous avons un Dieu merveilleux. Merci Amen. Beaucoup, Pasteur José du Canada. Nous accordons la parole à Maman Christine ou au Pasteur Célé.
Oui, merci Papa Gaston pour la parole. Je suis aussi au verset 48. Et là, le Seigneur a vu qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. Mais quand je regarde le verset 45, ils ne sont pas partis de l'autre côté de la rive vers Bethsaïda de leur propre initiative. C'est le Seigneur qui les a obligés de monter dans la barque et de précéder de l'autre côté de la rive. Mais comment est-ce qu'une mission si confiée par le Seigneur lui-même, il arrive au milieu de la mer qu'ils ont des difficultés à ramer? Parce que le vent leur était contraire. Comme le vent est contraire, on dirait, mais est-ce que nous sommes dans la volonté de Dieu? Comment est-ce que c'est lui qui nous dit d'aller, mais le vent s'oppose à ce que nous puissions avancer normalement? Et ça, c'est ce qui arrive souvent dans la vie, quand nous sommes convaincus que nous sommes dans la volonté de Dieu, et que des difficultés surgissent, on dit, peut-être que ça, c'est pas la volonté de Dieu, que je voudrais faire ceci, mais il y a de l'opposition, il y a des difficultés, il y a des pertes, il y a ceci, il y a cela. On pense directement que ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Pas nécessairement. On peut être dans la volonté de Dieu, mais le vent vient contraire pour montrer, pour réellement que nous puissions montrer que nous avons la foi, que nous n'allons pas, nous ne marchons pas de nous-mêmes, nous marchons avec le Seigneur. Et voilà que le vent est contraire. Amen.
Amen. Merci beaucoup, Pasteur Célé. Oui, le vent peut être contraire. Cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas dans la volonté du Seigneur. Et l'Éternel l'a permis pour cela, pour affermir notre foi, pour que nous puissions dépendre totalement de lui et que nous découvrions, que nous comprenions qui est celui-là qui nous a envoyé, qui nous a confié cette mission. Merci beaucoup. Nous, avant que j'accorde la parole au bien-aimé Thomas, je l'accorde à notre frère Albert. Frère Albert, vous avez la parole.
Merci bien-aimé. Je sais que tout le monde qui m'a précédé a commenté ce truc-là, mais je voudrais simplement ajouter quelque chose par rapport aux versets 46 et 47. Mais bien aimé, c'est vraiment difficile quand on est enfant de Dieu et que on n'est pas réellement sûr de sa foi. Au verset 47, nous voyons d'abord qu'il y a le soir qui était déjà arrivé. Non seulement que le soir est arrivé, mais la barque est au milieu de la mer. Et non seulement que la barque est au milieu de la mer, mais le vent qui souffle est contraire, totalement contraire à ce que la direction qu'il faut prendre. Mais bien aimé, ici, l'Esprit me parle simplement que, en tant qu'enfant de Dieu, quand Dieu nous envoie, quand Jésus-Christ nous envoie, nous devons savoir que nous aurons sur le chemin des circonstances difficiles. Quand on parle, le soir étant arrivé, mes chers, le soir décrit un moment de ténèbres, un moment où il y a la sombreté. Ça arrive que dans la vie que nous soyons au moment où tout est sombre, où il n'y a pas de lumière, on ne sait pas quel chemin prendre. Et quand on parle de la barque au milieu de la mer, mes bien-aimés, c'est au milieu de situations où on ne sait pas quoi faire. Parce que imaginez-vous être au milieu de la mer, qu'est-ce que vous allez faire? La mer décrit une situation profonde de difficulté où on ne sait pas sortir de la barque parce que sinon la mort est certaine. Et pire encore, le vent qui va souffler va être contraire. Mais ici, l'Esprit me dit, pendant toutes ces circonstances, comprends une chose, que c'est Jésus-Christ ou c'est Dieu qui t'a dit de prendre cette direction. Deuxièmement, demeurez ferme dans la foi parce qu'il connaît, ou avant même qu'il t'envoie, il connaissait que le soir viendra, qu'il sera au milieu de la mer, le vent va souffler contre toi, mais il a promis que c'est de l'autre côté que tu vas arriver. Et il viendra avant même que tu arrives pour te sauver dans cette situation. Donc, il faut savoir attendre le secours de l'Éternel dans la foi et dans le silence, car ce qu'il a promis, c'est ce qu'il va faire. Mais les moments difficiles, ça viendra toujours. Merci, que Dieu soit loué.
Merci beaucoup, frère Albert. Ce que le Seigneur a promis, c'est ce qui va arriver. Il a dit de passer de l'autre côté et quand il leur a dit, il devait arriver de l'autre côté. Et rien ne pouvait les empêcher d'y arriver. Quand le Seigneur m'a donné un rhéma, que je m'y accroche, que j'ai confiance en lui, malgré les vents contraires que je pourrais rencontrer sur mon chemin, mais que le regard reste fixé sur celui qui m'a dit de passer de l'autre côté. Merci beaucoup, frère Albert. Nous accordons la parole à notre frère Thomas.
Le Seigneur prenne le temps de nous rappeler ce qui a précédé. C'est-à-dire qu'il a prêché beaucoup au chapitre 4. Après avoir prêché beaucoup, il a dormi dans la barque. Il y avait le vent un petit, il a calmé ça par sa puissance. De l'autre côté, il a rencontré un fou qui avait 4000 à 6000 démons. Il les a chassés. Ensuite, quand il est chassé de là lui-même, il retourne. Et quand il retourne, il y a une femme qui avait une maladie de soins, 12 ans, il l'a touchée, elle est délivrée. Ensuite, il part chez Jaïrus, il ressuscite la fille de Jaïrus, et après, il va à Nazareth, même là, il guérit des gens, malgré l'incrédulité, et puis, il donne la puissance aux disciples de faire des miracles, et en même temps, pendant toutes ces circonstances, son cousin maternel, on a coupé la tête. Et après, il multiplie les pains, 5000 personnes mangent. Et les disciples sont très fatigués, il est aussi fatigué. C'est dans ces circonstances-là que le Seigneur va à la montagne pour prier. J'ai voulu seulement nous rappeler que c'est un Jésus-Christ complètement attaqué, complètement submergé par le travail quand il arrête tout pour aller à la montagne pour prier pendant longtemps, presque toute la nuit. Donc je me dis, moi, je suis occupé moi-même parce que je suis en train de voir le vendredi matin, j'ai une étude biblique. Là, la journée, j'ai une autre. Le soir, je suis avec vous. Et puis nous allons la nuit jusqu'à minuit. Le matin, samedi, j'ai des activités toute la journée. Et puis j'enseigne le dimanche. Et quand tu retournes, il y a des visites peut-être à faire. Tellement des obligations et on est fatigué dimanche soir. Est-ce que je prends le temps, après tout ça, pour prier? Parce que même lui-même Jésus, la femme qu'il a touchée, une force est sortie de lui à Marc 5, 30. Il a vu une dimension, un coussin du Saint-Esprit le quitter. Quand nous faisons le travail, le coussin là, la dimension là nous quitte. Est-ce que je me recharge dans le jeûne, dans la prière pour que Dieu continue à m'utiliser? C'est la question que je me pose.
Merci beaucoup, frère Thomas. C'est profond. Avoir le temps de se ressourcer dans le Seigneur. Si c'était moi, je pouvais demander à mes disciples, j'allais leur dire, j'ai beaucoup travaillé, restez, renvoyez la foule. Moi, je passe de l'autre côté. Dès que vous aurez fini, rejoignez-moi. Mais nous voyons ici le contraire. Malgré ce travail immense, épuisant, le Seigneur dit même à ses disciples, vous allez, moi je vais me préoccuper de renvoyer la foule. Et de là, au lieu de dire, je me repose, il va se ressourcer et parler avec l'Éternel presque toute la nuit. De tels moments sont à rechercher et nous devons les vivre, les pratiquer aussi, souvent dans notre vie. Cela n'exclut pas la prière que nous faisons régulièrement, mais chercher des moments spéciaux pour être tête à tête avec le Seigneur notre Dieu. Merci beaucoup, frère Thomas. Nous accordons la parole au pasteur Richard. Pasteur, vous avez la parole.
Merci beaucoup, papa Gaston, pour la parole. Le verset 50, on voit un élément qui dérange notre communion avec Dieu. Ici, il y a les disciples avaient une panique, avaient pris panique. Et puis, quelque part, Jésus a pointé du doigt en leur disant, n'ayez pas peur. Et la panique, la peur, ce sont des choses, comme nous avions vu dans le verset 49, qui nous permet que nous puissions faire un mauvais discernement. Jésus, qui était la réponse à leurs problèmes, et ils l'ont cru comme une fantôme. Pourquoi? Parce que la panique, la peur a pris place. Donc, mon travail en tant qu'enfant de Dieu, je dois veiller sur la panique, veiller sur la peur. Mais plutôt, quel que soit, quoi que ce soit, je dois savoir que le Seigneur a promis qu'il est toujours avec moi et il ne m'abandonnera pas. Donc, je n'ai aucune raison de permettre à la panique ou à la peur de prendre place dans mon cœur. Merci.
Merci beaucoup, pasteur Richard. Nous devons veiller parce que la peur nous empêche de bien discerner. Et la peur nous détourne nos regards de la personne capable de nous venir en aide qui est Jésus-Christ. Nous devons avoir confiance en Jésus-Christ. Et lorsque nous détournons, nous tournons notre regard de l'autre côté, la peur prend réellement place à nous. Nous commençons à envier et nous marchons alors dans la volonté du monde. Veillons à cela, comme le pasteur le disait, parce que quand nous sommes dans la peur nous empêche d'avoir et de demeurer dans la foi. La peur et la foi ne peuvent pas marcher ensemble. Merci beaucoup, pasteur Richard. Nous accordons la parole au pasteur José des États-Unis.
Oui, merci beaucoup, frère Gaston. Bien-aimé, je prends le verset suivant, et même le 52e. Lorsque le Seigneur a dit cela aux disciples de ne pas avoir peur et que c'est lui. Il monta dans la barque. Et quand il monta, le vent tomba. C'est comme si le vent attendait que le Seigneur soit dans la barque. Et c'est vrai puisque c'est lui, il est le Dieu créateur. Il est celui qui a tout créé, même le vent. Le vent ne pouvait pas continuer à souffler quand le Seigneur a mis ses pieds dans la barque. Ici, c'est le contraire de ce qui est arrivé l'autre jour. Le Seigneur était dans la barque, le vent soufflait. Et aujourd'hui, quand il met le pied dans la barque, le vent cessa ou tomba. Oui, notre Seigneur est celui qui calme le vent. Le vent ne peut pas continuer à souffler quand il est là. L'autre fois, c'est parce que il dormait. Et quand on l'a réveillé, il a dit au vent, et le vent a baissé, a cessé, je veux dire, ça n'a pas continué. Ici, quand il met les pieds, le vent tombe. Oui, bien-aimés, lorsque nous sommes agités par des problèmes, par des soucis, par la maladie, par la mort, par n'importe quelle difficulté, lorsque le Seigneur met sa main sur nous ou sur le problème, ce problème ne peut pas exister. Ce problème ne peut pas exister parce que le Seigneur a mis sa main. Et nous prions le Seigneur de mettre sa main, de mettre ses pieds sur nos difficultés. Peut-être cette nuit est une nuit agitée pour quelques-uns parmi nous. Prions le Seigneur qu'il mette ses pieds dans cette barque pour que ce vent cesse. Il peut le faire. Il l'a fait. Merci.
Merci beaucoup, Pasteur José des États-Unis. Le vent ne peut pas souffler là où le Seigneur Jésus-Christ est. Et la prière, selon ce que le Pasteur José a présenté, que la main de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur le vent qui nous est contraire. Quel est ce vent contraire que je traverse dans ma vie, dans ma maison, dans ma société, dans mon église, dans mon pays? Quel est ce vent contraire que chacun de nous traverse? Au verset 48, pour compléter ce que le pasteur José des États-Unis disait, il allait vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. C'est que eux qui étaient dans la barque, ils ramaient, le vent leur était contraire, mais Jésus-Christ qui marchait sur les eaux, marchait plus vite, le vent n'avait aucune influence sur lui, et à tel point qu'il allait dépasser les disciples qui étaient dans la barque. Lorsque nous sommes avec notre Seigneur Jésus-Christ, que les vents soient contraires ou pas, nous avons cette assurance que nous allons atteindre le but et nous allons saisir ce que l'Éternel nous a promis. Il est merveilleux. Merci beaucoup, Pasteur José des États-Unis. Nous accordons la parole au Pasteur Richard. Pasteur, vous avez la parole.
Ah, merci encore, Papa Gaston, pour la parole
toujours dans le verset 50, le Seigneur a rassuré ses disciples qui étaient envahis par la peur, envahis par la panique. Il leur a rassuré que c'est moi. Ce soir, il est probable que quelqu'un parmi nous, dans la grande famille de Fimes, est tourmenté par la peur. Je voulais juste communiquer ce message du Seigneur qui te rassure qu'il est là. Et cette parole d'assurance puisse éliminer la peur et pour que nous puissions donner à notre Seigneur une bienvenue dans notre problème, dans notre bateau, afin que le Seigneur puisse y monter. Donc, et c'est une parole d'assurance. D'abord, ça sort de la parole, de la bouche de notre Seigneur. Il me dit de me rassurer que c'est lui. Donc, que ma prière est que nous tous, dans n'importe quelle situation, nous puissions entendre cette parole d'honneur de notre Seigneur, disant que c'est moi. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Pasteur Richard, de cette assurance que notre Seigneur nous accorde et rappelle à tout un chacun de nous ce soir. Que nous ne puissions pas regarder de gauche à droite. Je peux regarder quelqu'un qui a une grande famille, mais dans cette famille, pleine de divisions. Quelqu'un très intelligent, ou une famille, tous sont très intelligents, mais plein d'occultisme, plein d'argent, mais plein d'égoïsme. Ils ne parviennent pas à se partager, à se soutenir. Chacun a sa croix. Mais la chose la plus merveilleuse, Jésus-Christ nous rassure qu'il est là. Il sait, il connaît le poids de la croix que je transporte, que tu transportes, que nous transportons, et dit il est là. Ce soir, le Seigneur nous rassure qu'il est là. Il est là et il est présent. Merci. Nous allons passer accorder la parole à notre frère Thomas, et si nous pouvons aussi aborder la deuxième partie à partir du 53, mais rien n'empêche, s'il y a encore des vérités que le Saint-Esprit dépose à nous dans la première partie. Frère Thomas, vous avez la parole.
Je suis au verset 54. Ils ont reconnu aussitôt que c'était Jésus. Et ils vont amener tous les malades chez lui. Moi, j'ai un témoignage. Hier samedi, une femme de notre église, une femme, mon église, ce sont des gens de distinction, ils ont l'argent. Donc la femme là, elle était avec ses enfants dans son beau véhicule, un mendiant lui a dit, madame, j'ai faim, aide-moi. Elle a vite dit non, elle a couru à son véhicule, elle s'est sauvée. Mais une voix lui a dit, il a faim. Et elle s'est tournée, elle a donné $20 à ce monsieur-là, et lui a dit, as-tu faim? Il a dit oui. Et je suis dehors, je n'ai pas où dormir. Donc, il lui a demandé de garder le 20 là, il lui a acheté à manger. Et vite, il a appelé, c'est Thomas, le spécialiste des pauvres. Elle est riche, ce n'est pas, elle a tout fait. Maintenant, c'est Thomas qui doit s'occuper de ça. Je n'ai pas eu le message, mais aujourd'hui, avant qu'on entre au culte, elle a dit, il y a ceci, le même monsieur là, tout ça. Il est où? Oh non, il a dit qu'il viendra à l'église, il sera à tel endroit. J'ai dit, allons le prendre. On est allé le prendre. Il le sentait, il dort dehors, il vient de New York, il n'a rien. Il a reçu Jésus-Christ après le culte. Et puis on a téléphoné quelque part où il peut avoir un endroit pour vivre. J'ai dit à cette femme-là, c'était Jésus. Parce que au dernier jour, il va te dire, j'avais faim, tu m'as nourri. J'avais soif, tu m'as donné à boire. J'étais malade, tu m'as soigné. J'étais sans abri, tu m'as pris dans la maison. J'étais dans la prison, tu m'as visité. Donc je me demande,
Est-ce que je reconnais Jésus? C'est bien de reconnaître Jésus dans les miracles, que le pasteur ait le prix, c'est bon. Mais quand Jésus vient comme un nécessiteux, comme le pauvre et le mendiant, est-ce que je fuis pour dire, ah, ce sont ces gens, comme à Kinshasa, on me disait, ces enfants, c'est des sorciers, il faut faire attention. Il faut les laisser mourir parce que si tu donnes, il mange quelque chose de toi, il va t'ensorceler. Est-ce que je reconnais Jésus dans le besoin de Jean? Merci.
Merci beaucoup, Frère Thomas, de ce témoignage combien édifiant. Et ça nous interpelle, nous aussi. Aussitôt, les gens ayant aussitôt reconnu Jésus, je peux être au fumès. Est-ce que je reconnais réellement Jésus-Christ dans tout ce qui se passe autour de moi et dans ma vie? Est-ce que je le connais réellement et je lui fais confiance? Merci beaucoup. Nous accordons la parole au pasteur Célé ou à maman Christine et il sera suivi par le pasteur Richard.
Oui, merci encore pour la parole, Papa Gaston. Le verset 52 m'interpelle vraiment beaucoup parce que les disciples étaient en formation à côté du Seigneur et on nous dit qu'ils n'avaient pas compris le miracle de pain. Non seulement ils n'avaient pas compris le miracle de pain, mais parce que aussi leur cœur était endurci. Là, c'est vraiment un exemple à ne pas suivre aujourd'hui, où quand on nous demande « Est-ce que tu peux témoigner qu'est-ce que Dieu est en train de faire ?» On ne voit rien. On ne voit rien de ce que Dieu est en train de faire. Pourtant, Dieu travaille dans notre vie chaque jour. Quand nous nous réveillons du lit, quand nous allons au travail, quand nous revenons, et on ne voit rien, comme si Dieu n'est pas à l'œuvre, comme si Dieu dort. Et là, c'est l'exemple des disciples qui ont vu des miracles, pas nécessairement le miracle de pain, mais tout un tas de miracles. Mais leur cœur est toujours fermé, pas de foi, pas de confiance, le cœur endurci. Quel est l'état de mon cœur maintenant? Est-ce que je suis en train de voir dans le petit fait de chaque jour que la main du Seigneur est derrière ou je ne vois rien? Amen.
Amen. Merci beaucoup, pasteur. C'est profond. Dernièrement, j'ai perdu un collègue de service. Souvent, nous restions ensemble dans les bureaux à deux, en train de parler pendant la pause. Et il est tombé malade. C'était la toux, la période où moi aussi j'avais la toux. Nous sommes dit que c'est une épidémie qui touche tous les personnels. Je lui ai écrit. Il m'a dit non, j'ai fait l'hôpital, la maison, je ne parviens pas à rester très longtemps assis, mais dès que je serai rétabli, je reviendrai. Et quelques jours après, on nous appelle que l'ami venait de mourir. Alors je réalise, cette personne avec qui je partageais les bureaux, je causais souvent et j'ai réalisé l'importance de ce souffle de vie, que cela ne vient pas de moi. C'est déjà, est-ce que je réalise que cela vient de Dieu? C'est un don gratuit que Dieu nous accorde. Merci beaucoup, pasteur Célestin. Pasteur Richard, vous avez la parole.
Merci encore une fois, papa Gaston, pour la parole. Le verset 56, où nous voyons Jésus parcourir avec ses disciples, parcourir toutes les régions avec un but pour annoncer sa venue. Les gens couraient auprès de Jésus, parcouraient pour annoncer la venue de Jésus. Et du moins, c'était ce but-là qui m'a préoccupé. Comme papa Gaston parlait, je me suis rappelé hier, nous étions dans un culte d'action de grâce où Papa Thomas nous a donné un message vraiment qui est allé, message simple, très facile à comprendre. Le titre, c'est dans votre marche, est-ce que vous marchez vers un but? Donc, dans notre vie, est-ce que nous visons un but? Ou bien seulement on se réveille, on part, on fait le travail et puis sans but. Ici, nous voyons que ce peuple a parcouru la vie avec un but. Et le dernier verset nous fait comprendre que tous étaient guéris à cause des gens qui avaient un but. On ne doit pas gaspiller notre temps avec les gens qui ne savent pas où ils partent. Ils ne savent pas d'où ils viennent. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, chaque jour, chaque matin, on se réveille, il y a un but que nous pensons atteindre. Et c'est là qui doit motiver notre vie. Jésus-Christ s'est déplacé avec un but. Il ne tuait pas le temps. Et donc, quand il s'est réveillé, ils avaient de but à atteindre. Quand il monte au lit, il savait que j'ai atteint tous les buts prévus pour aujourd'hui. Et quand nous allons, quand notre vie seront motivés par des buts précis qui viennent du royaume des cieux, les gens tout autour de nous vont bénéficier. J'étais vraiment encouragé par ce peuple. J'étais encouragé par l'équipe de Jésus et ses disciples qui ne se baladaient pas. Ils avaient un but à atteindre. Merci.
Merci beaucoup, pasteur Richard. Et c'était la dernière main parce que nous voulons atterrir. Et on les priait de leur permettre seulement de toucher les bords de son vêtement. Et tout ce qui les touchait était guéri. Quel degré de foi de ces gens? Non, nous sommes nombreux, mais si je peux toucher ne frise que la frange de son habit. Demeurons dans la foi, bien-aimés. Ils étaient malades, ils ont apporté des malades, mais la foi était là présente. Si je touche l'habit, ce n'est pas l'habit qui guérissait, mais c'est Jésus-Christ qui guérissait, qui guérit encore aujourd'hui. C'est Jésus-Christ qui apaise les vents contraires qui dérangeaient dans la vie encore aujourd'hui. Il est capable de le faire. Et dès qu'il se présente, les vents cessent parce que les vents n'ont aucune influence sur le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui-même qui a créé ces vents. Voilà pourquoi il nous appelle « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Il est là et il est capable de tout. Le Jésus-Christ que nous connaissons, il est Dieu, il est créateur de tout. En un clin d'œil, il est capable de transformer toute situation. Même celles-là qui se moquaient de nous peuvent rester étonnés, surpris de voir les changements totalement radical que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs Jésus-Christ est capable d'accomplir. C'est Jésus, il est dans notre vie. Nous sommes avec lui. Confions et mettons alors notre confiance en lui parce que lui-même nous dit ce soir, n'ayez pas peur, c'est moi. Il est là. Merci bien-aimés. Nous allons lire les passages. Les commentaires du jour, les commentaires faits par notre bien-aimé Normand Bini de la RDC, de la République démocratique du Congo. Et nous allons lire, je vais demander à ma chère épouse qui va fêter son anniversaire demain de nous lire les passages du jour, les commentaires du jour, pardon.
Merci. Jésus révèle sa gloire. La prière à la montagne. Prier sur la montagne offre plus de concentration, loin des bruits et des activités humaines qui réduisent l'ardeur pour la prière. Jésus donne l'exemple. nous apprenant à nous libérer des préoccupations terrestres qui nous embarrassent et nous empêchent de regarder aux cieux. La retraite vaut son pesant d'or, en plus de la prière en public. 1 Timothée, verset 2, chapitre 2, verset 8. Jésus, qui n'ignorait pas les vents contraires, qu'allait affronter ses disciples, n'a pas sûrement manqué de prier pour eux. Hébreux 7, verset 25. Rassurez-vous, c'est moi. En proie à la fatigue, à l'incrédulité et à la peur, les disciples ne reconnaissent pas leur maître qui vient à eux dans leurs difficultés et crie aux fantômes. Parfois, nous manquons de reconnaître la main et la présence du Seigneur dans nos vies à cause de nos inquiétudes et nos doutes. Heureusement, lui, il nous rassure, comme il le fait souvent dans les Écritures. N'aie pas peur, ne crains rien. Ésaïe 41, verset 10. Les expériences par lesquelles il nous fait passer sont pour qu'il nous révèle son identité et sa puissance. Reconnu comme guérisseur, ce qui préoccupait surtout les foules qui affluaient vers Jésus, c'est la guérison qu'ils peuvent obtenir de lui. Accepte-t-il avec autant d'engouement son message de repentance et de foi? Beaucoup aiment Jésus parce qu'il fait de bien, mais ils ne s'avisent pas à obéir à sa parole. Méditation. Par le Saint-Esprit, Jésus nous manifeste encore aujourd'hui sa présence permanente. Balayant les doutes et la crainte, ennemi de la foi. Merci.
Merci, ma chère. Bien-aimés, nous sommes à la fin de notre programme. Nous rappelons que la méditation de demain, c'est dans Proverbes chapitre 26, versets 1 à 16, avec la question 4 et 6. Nous nous rappelons toujours du camp biblique Belgique 2015. Apprêtons-nous, nous pouvons donner progressivement. J'encourage nos bien-aimés, surtout ceux d'Ottawa qui sont en train de le faire. Et nous encourageons aussi à tout le monde de commencer à le faire. Merci. Nous accordons la parole au pasteur Célé pour les annonces ainsi que pour la prière de clôture.
Merci frère Gaston pour la parole. Nous saluons les frères et sœurs qui sont nombreux à la radio depuis North Carolina et puis au Canada. Ils sont au Québec, ils sont en Alberta. Nous bénissons le Seigneur leur amour pour la parole. Ok, donc nous pouvons prier maintenant. Notre Dieu, nous bénissons ton Saint-Nom pour ta parole qui nous fait toujours du bien. Ta parole est la vie et elle nous enseigne de vérités profondes pour notre vie. Ceux qui ont vécu avec toi, nous sommes en train de voir comment et combien ils ont vécu dans la peur, ils ont vécu dans toutes sortes de frustrations, et nous ne sommes pas épargnés de cela encore aujourd'hui, dans les difficultés de tous les jours que nous traversons. Tu nous rassures en nous disant, dans tous les pas que nous faisons, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Mais aussi, tu vois tout ce que nous traversons, il n'y a rien qui t'échappe. Le monde peut nous presser, les vents peuvent être contraires, mais tu restes celui qui nous rassure chaque jour quand nous nous réveillons, quand nous travaillons, quand nous rentrons à la maison. Ta grâce nous accompagne, nous ramène. Nous aimerions voir ta main partout où nous sommes, notre Dieu. Nous voyons combien de miracles tu as accomplis de ton vivant. Et tu nous dis encore qu'aujourd'hui, tu continues à travailler. Tu n'es pas un Dieu mort. Nous te sommes reconnaissants pour tous tes bienfaits, Seigneur, au travers de cette parole, au travers de témoignages que nous avons écoutés, au travers réellement la vie que nous avons quand nous nous exposons devant ta parole. Tu pouvais dire à Marthe qui s'agitait sur beaucoup de choses en lui disant, mais ta petite sœur Marie a choisi la meilleure part qui ne lui sera jamais ôtée. Et cette meilleure part, c'est celle que tu nous donnes chaque jour autour de ta parole, chaque soir. Nous te sommes reconnaissants, nous qui sommes là en direct sur le plateau de FIMES, mais tous ceux qui se connectent à la radio, qui ont l'amour de la parole, qui méditent avec nous. Seigneur béni, nous augmente notre foi, que toute cette parole que nous accumulons, que cela crée en nous la confiance de vivre pour toi et de vivre pour t'élever, Seigneur. Merci pour ta bénédiction sur chaque famille et merci pour le camp biblique que nous sommes en train de voir. Ta main nous conduire. Nous avons besoin encore d'avoir beaucoup de foi pour tout ce qui reste encore à faire. Merci pour tous les préparatifs. Merci d'avoir utilisé ton fils pour la direction. Et merci pour chaque famille que tu bénis encore davantage, Père. Dans les noms de Jésus, nous te bénissons. Amen.
Amen. Amen.